Il est 7h.
On avait tellement hâte de les retrouver. Petit clin d'œil du destin, on le retrouve sur un des matchs les plus importants de la saison. Et donc je pense qu'il y avait une énorme envie de leur part aussi et ça a fait un cocktail détonnant.
C'est un Luka Karabatic ému qui a retrouvé hier le public dans les gradins du stade Pierre de Coubertin. 8 mois que les stades étaient vides et en plus le PSG Handball s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Retour aussi des clients en terrasse. Ils en ont profité jusqu'au bout, jusqu'au couvre-feu repoussé à 21h. Bon, certains ont même eu du mal à rentrer, vous allez l'entendre. Le procès Big Malion s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. 1 mois de débat et 14 prévenus, dont l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Et puis la sortie aujourd'hui d'un livre dont le lecteur est le héros. Son nom, Les Embrouillamini. On va en parler. Juste après ce journal, l'éclairage éco de Nicolas Barré.
Et ce crack mondial sur le marché du Bitcoin en cause notamment la Chine qui dit non aux crypto-monnaies. Les pertes sont considérables.
Avant le regard international de Vincent Hervouette, l'édito sport de Virginie Fulpin.
Et si le sport devenait une priorité en France. La crise sanitaire et la perspective de Paris 2024 vont peut-être enfin nous permettre de voir que le sport c'est essentiel.
Et avant 7h30, on retrouve bien sûr Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal d'Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. 8 mois qu'il n'y avait plus de spectateurs dans les stades. Le public a fait son retour hier à Pierre de Coubertin. 800 supporters venus supporter le PSG en quart de finale retour de la Coupe d'Europe de handball. Un soutien qui a permis aux Parisiens d'éliminer les Allemands de Kiel, pourtant champions d'Europe en titre. Reportage de Corinne Boulou.
Quelle ambiance à Coubertin. Les handballeurs parisiens en rêvaient, leur public leur manquait. Eh bien, hier soir, les 800 spectateurs disséminés dans les tribunes ont paru 2 fois plus. L'équipe de Luka Karabatic s'est mise au diapason, motivée par ses retrouvailles après 7 mois de compétition dans un silence de cathédrale.
On avait tellement hâte de les retrouver. Petit clin d'œil du destin, on le retrouve sur un des matchs les plus importants de la saison. Et donc je pense qu'il y avait une énorme envie de leur part aussi et ça a fait un cocktail détonnant.
Les supporters du PSG Handball ont vibré. Cela faisait tellement longtemps qu'ils attendaient ce moment, comme Valentin, 40 ans, fidèle abonné.
Je ne vais pas vous mentir, je pensais qu'à ça. J'ai déplacé des réunions de travail en disant finalement on fera ça jeudi ou vendredi. C'est un tel plaisir, on a nos petites habitudes. Donc les bars ont rouvert en même temps, on a pris une petite bière juste avant en terrasse.
Mais en fait, je trouve que pour 800, on arrive à faire pas mal de bruit. Voilà. On fait le maximum avec les masques.
Oui, ça m'a beaucoup manqué. Défense. Défense.
Et c'est dans ce bruit, cette fureur et cette passion venue des tribunes que les champions d'Europe allemands ont été renversés par une équipe parisienne galvanisée par son public retrouvé.
Et pas de public en revanche dans les gradins du Stade de France où se jouait hier soir la finale de la Coupe de France de football. Un match qui se jouait à 21h15 après le couvre-feu. Donc les Parisiens l'ont emporté 2-0 face à Monaco, la 14e Coupe de France de leur palmarès.
Retour du public dans les stades donc, mais aussi dans les cinémas, les commerces et bien sûr en terrasse.
Et quel plaisir de boire à nouveau un verre ou de profiter d'un déjeuner en terrasse. Les fêtards étaient au rendez-vous et ils en ont profité jusqu'au bout, comme a pu le constater Nicolas Fellmann dans le 2e arrondissement de Paris.
Écoutez ce bruit incroyable. Une bière qui rencontre un joli verre de rosé de Provence. Santé !
Un verre en extérieur, c'est tout ce qu'il fallait à ces deux amis pour assouvir cette soif de retrouvailles.
C'est un moment incroyable, on a l'impression de sortir de prison, merci la vie, c'est canon quoi.
Remonter la rue Montmartre, c'est retrouver ces terrasses pleines de vie, ces trottoirs aussi recouverts de tables et de chaises. Arnaud et ses amis savourent un cocktail et le retour de plaisir simple.
De regarder les gens sans qu'ils s'en aperçoivent.
Écouter les conversations de la table d'à côté.
Et aussi voir des gens sans masque, voir des visages, ça change.
Mais voilà, toute bonne chose a une fin.
Mesdames et messieurs, il est 20h45, merci à tous pour cette reprise.
Julien, le gérant, ne peut exploiter que la moitié de sa terrasse, quelques 70 places, tout occupées hier soir.
Bilan très content. C'est pas aussi bien que ce qu'on faisait avant, parce que c'est vrai qu'il nous manque quand même l'intérieur. Et surtout que 21h, nous, c'est un moment où on commence vraiment à travailler. Mais par rapport aux restrictions, on est dans la normalité.
21h15, les employés rentrent les tables.
On remballe la sorcière, on est même un petit peu à la bourse.
Certains clients errent encore, gobelets à la main, comme pour prolonger le plaisir.
Mais certains ont eu beaucoup de mal à rentrer, notamment à Rennes, où les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les derniers fêtards aux abords de la rue de la Soif.
Sympa le serveur. Fallait peut-être l'envoyer à Pierre de Coubertin assister au match de handball. Il avait l'air assez, assez lancé. 7h05 sur Europe 1. Après un faux départ au mois de mars dernier à cause du Covid, le procès Big Malion s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris.
Et 14 prévenus comparaissent dans cette affaire, dont Nicolas Sarkozy mis en examen pour financement illégal de campagne électorale, un système de fausses factures et de double comptabilité qui a fait vaciller la droite. Aurélie Herbemont.
Tout commence par 363 615 euros. En juillet 2013, le compte de campagne de Nicolas Sarkozy est officiellement rejeté pour dépassement du plafond fixé à 22 millions d'euros. Une déflagration politique, c'est la première fois qu'un finaliste de la présidentielle est privé de remboursement public. Avec une ardoise de 11 millions d'euros, l'UMP de Jean-François Copé est au bord du gouffre.
La voix de l'UMP ne s'éteindra pas.
Voici le sarcoton. En deux mois, les dons des sympathisants affluent pour payer les dettes. La campagne de 2012 n'est plus qu'un mauvais souvenir, mais pas pour longtemps. Février 2014, le nom Big Malion surgit dans l'actualité. Big Malion, cette agence de communication appartenant à des proches de Jean-François Copé, est accusée de surfacturation. La vérité est tout autre, selon l'avocat de la société, maître Patrick Maisonneuve.
La société Big Malion a été amenée à établir des factures qui ont été imputées à l'UMP alors qu'elles auraient dû l'être à l'association de financement de la campagne. Il s'agit donc bien de fausses factures.
11 millions d'euros de fausses factures absorbées par le parti pour masquer le dépassement du plafond de campagne. 44 meetings grandioses qu'il a bien fallu financer. Jérôme Lavrieux, directeur de campagne adjoint, passe aux aveux en larmes sur BFM TV.
Il y a eu un engrenage irrésistible d'un train qui file à grande vitesse. Les personnes qui auraient dû tirer sur le signal d'alarme ne l'ont pas fait. Je suis sans doute une de ces personnes, sans avoir été la seule personne dans le wagon, bien sûr.
Big Malion, ou l'histoire d'une campagne qui va coûter près du double du montant légal. La droite se livre alors à un jeu de massacre. Jean-François Copé est chassé de la tête du parti. Il ne sera finalement pas mis en examen, contrairement à Nicolas Sarkozy.
J'étais sur les estrades et en même temps je gérais la France. Est-ce que vous croyez vraiment que j'avais l'occasion d'aller regarder les contrats de toutes les sociétés qui travaillaient pour faire les meetings, faire le décor ?
Une affaire qui continue à empoisonner la droite. Copéistes et sarkozistes se renvoyant encore la responsabilité.
Le procès va durer un mois jusqu'au 22 juin.
Payons-nous notre électricité trop cher ? Oui, si l'on en croit l'UFC Que Choisir, l'association de défense des consommateurs, qui publie une étude ce matin qui dénonce l'inflation des prix de l'électricité.
Selon cette étude, le tarif réglementé d'EDF a augmenté de 50% en 10 ans, un chiffre 3 fois supérieur à l'inflation. Concrètement, un ménage moyen chauffé à l'électricité a vu sa facture passer de 1019 à 1522 euros. Entre 2010 et 2020, le président de l'UFC, Alain Bazot, appelle à plus de transparence pour le consommateur.
On se rend compte que depuis 5 ans, la méthode de calcul de ce tarif réglementé est dans une spirale d'augmentation toujours plus importante. C'est-à-dire qu'avant, le prix du tarif réglementé qui était imposé à EDF tenait compte de ses coûts d'approvisionnement. Et on a changé la formule pour donner plus d'espace économique aux concurrents d'EDF. On a obligé EDF à vendre un tarif réglementé peu compétitif. Donc la première chose qu'on demande, c'est beaucoup plus de transparence sur la réforme qui est en train de se préparer de la régulation du marché de l'électricité. Les consommateurs ne sont pas du tout informés et consultés sur comment les choses vont être régulées. Et vu la situation actuelle, nous sommes très inquiets.
Le président de l'UFC Que Choisir, Alain Bazot, au micro européen de Maud Descamps.
Et puis il sort aujourd'hui le nouveau livre de Pierre Rofast, un roman dont vous êtes le héros.
Les Embrouilles à Mini, c'est son nom, le concept. Chacun peut lire un livre différent en fonction de ses choix de scénario. Nicolas Caro.
Le roman s'ouvre sur les souvenirs du narrateur quand il était enfant. Et à la fin du chapitre 1, on a le choix. Je crois me souvenir qu'il faisait beau. Dans ce cas, rendez-vous au chapitre 2, page 13. Ou, si ça se trouve, il pleuvait. Rendez-vous au chapitre 3, page 23. Pour l'instant, ça ne fait pas une grosse différence, mais au fur et à mesure, l'histoire se complexifie. C'est le principe du livre dont vous êtes le héros, mais en plus sophistiqué encore, c'est aussi une prouesse technique qui demande beaucoup de méthodes et 2 ans de travail. Pierre Rofast, l'auteur du livre.
Alors, il faut un plan, bien entendu, c'est obligatoire. Il faut un plan que l'on corrige plusieurs fois. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, puisque à la relecture, ça marche pas, il y a des incohérences. Donc moi, c'est très simple. J'ai un grand tableau blanc avec des post-it. Chaque chapitre est un post-it et je m'amuse avec des flèches et des repositionnements comme ça en permanence. Mais ça fait vraiment partie du plaisir d'écriture.
La difficulté, c'est bien sûr la cohérence. On peut revenir en arrière, passer du chapitre 12 au chapitre 5, par exemple. En tout, plus de 1000 combinaisons sont possibles, donc 1000 romans dans un seul. Même l'auteur ne les a pas tous lus.
Les Embrouilles à Mini de Pierre Rofast aux éditions Les Forges de Vulcain.
Merci beaucoup Émilie Dez, c'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Et si on y croyait cette fois, la France peut-elle briller à l'Eurovision, voire même l'emporter? C'est samedi soir et notre candidate Barbara Pravi est favorite des bookmakers. On va parler de musique ce matin, en écouter surtout et vous présenter Barbara Pravi, le tête-à-tête Europe Matin, c'est à 7h40. Tout de suite, l'éclairage écho de Nicolas Barré, juste avant le regard international. Vincent Hervouet.
Oui, Joe Biden réclame la désescalade à Benjamin Netanyahou. Il le fait entraînant les pieds, poussé par la gauche démocrate.
Bon réveil à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h12 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est le retour sur Terre pour le Bitcoin. Les crypto-monnaies ont subi hier un krach mondial et les pertes sont colossales.
Oui, toutes les crypto-monnaies, hein, le Bitcoin la plus connue, mais aussi l'Ether, le Ripple, etc., ont subi une chute très violente en perdant jusqu'à la moitié de leur valeur en cours de journée avant de se reprendre un peu. Le Bitcoin avait atteint tout récemment un sommet autour de 65 000 $. Il valait plus hier que 40 000 $. En une semaine, la valeur de l'ensemble des cryptos s'est effondré de plus de 1000 milliards de dollars. Imaginez, c'est presque l'équivalent du PIB de l'Espagne.
Et comment est-ce qu'on peut expliquer un tel crack ?
Alors, les deux responsables s'appellent Elon Musk et Xi Jinping. Elon Musk, parce que après avoir encensé le Bitcoin en permettant d'acheter des Tesla avec, eh bien, il a fait volte-face en le jugeant trop polluant. Alors là, il faut un petit peu rentrer dans la mécanique. L'usage du Bitcoin consomme énormément d'électricité. Pourquoi ? Parce que les transactions qui sont cryptées impliquent des calcul très complexe. C'est ce qui garantit leur inviolabilité. Il faut donc de très grandes capacités de calcul fournies par des milliers d'ordinateurs tournant en permanence. On appelle ça miner du Bitcoin et en un an de minage de Bitcoin, eh bien on consomme l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité des Pays-Bas. J'ajoute, et ça n'est pas un détail, que 70% du minage de Bitcoin a lieu en Chine. Pourquoi ? Parce que l'électricité y est moins chère qu'ailleurs. Or, c'est une électricité souvent très carbonée, produite par des centrales à charbon. Et voilà pourquoi Elon Musk dit que le Bitcoin est mauvais pour l'environnement.
L'autre responsable du krach, vous le disiez, c'est la Chine ?
C'est la Chine parce qu'elle a décidé d'interdire les paiements en crypto-monnaie. Elle est très hostile à tout ça, officiellement, parce que c'est risqué et spéculatif. La vraie raison, c'est que les cryptos permettent de faire des transactions en toute confidentialité, ce qui est insupportable pour un État qui veut tout contrôler, qui veut contrôler ce que font tous ses citoyens. D'autre part, la Chine, comme d'ailleurs l'Europe et les États-Unis, veut développer sa propre monnaie électronique. En fait, pour contrer les crypto-monnaies privées, les États veulent reprendre la main avec des monnaies électroniques gouvernementales concurrentes, des GovCoins, comme on dit. Alors, il est clair qu'en disant non aux cryptos, la Chine leur porte un coup dur. D'autres pays, d'ailleurs, pourraient suivre, d'où ce krach spectaculaire.
Merci, Nicolas Barré. Vos explications ce matin, c'est parfois compliqué de comprendre ces mécaniques de Bitcoin et de crypto-monnaies. Merci, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h14. Vincent Hervouet, vous avez perdu beaucoup en Bitcoin hier.
Non, j'achète. C'est tout ce que dit Nicolas Barré.
Le regard international à présent, Vincent. Joe Biden réclame à Benjamin Netanyahou une désescalade immédiate.
Oui, avant-hier, il lui avait dit son soutien à un cessez-le-feu. Hier, il est allé à peine plus loin. C'est pas précisément taper du poing sur la table un coup de fil, mais jamais un coup de gueule, à peine un coup de menton et toujours pas de coup d'arrêt. Depuis 10 jours, on sent bien que le président américain répugne à s'en mêler. Joe Biden traîne les pieds, on l'avait déjà remarqué. Et il a ses raisons. D'abord, sa longue expérience du Proche-Orient. Depuis les années 80, la diplomatie américaine évite de rouler des mécaniques quand elle mène des médiations, mettre la sirène et le gyrophare, jouer les pompiers. Eh bien, c'est le plus sûr moyen d'exciter les pyromanes. Mieux vaut pousser les alliés, les Égyptiens notamment, à faire le go-between entre Gaza et Tel Aviv. Plutôt l'action en sous-sol que la grande tirade sur la scène de théâtre qu'est l'ONU.
Alors, depuis 10 jours, les Américains s'emploient à bloquer le Conseil de sécurité.
Oui, ils repoussent les réunions, ils refusent les résolutions, ils ont menacé d'opposer leur veto au projet que présentaient la France et 3 autres pays arabes. Biden refuse la diplomatie déclamatoire, cruelle déception pour ceux qui comptaient sur lui pour réanimer l'organisation multilatérale. Il refuse même que l'ONU répète les phrases creuses, les vœux pieux qu'aligne le Département d'État. L'ONU est une victime collatérale. Comme d'habitude, la politique intérieure américaine impose sa logique à la Maison-Blanche.
La gauche du Parti démocrate s'indigne du sort des Palestiniens.
Oui, la passionnaria Alexandria Ocasio-Cortez dénonce les crimes de guerre israéliens. Bernie Sanders clame que Palestinians Lives Matter, les vies des Palestiniens comptent. Le centre du parti vacille. L'opinion publique aussi. Le téléspectateur est là de cette violence. Il faut le soulager. En 2006, quand l'armée israélienne a essayé de faire la peau au Hezbollah libanais, le monde a attendu 10 jours avant d'exiger un cessez-le-feu. Ça fait 10 jours que les Israéliens écrasent le Hamas. Le timing est respecté. Soit ils mettent un coup au but et pulvérisent le tunnel où se terre depuis des années le chef militaire du Hamas et ils pourront réclamer mission accomplie. Soit la chasse à l'homme échoue, comme avec le cheikh Nasrallah au Liban, et les barbus auront gagné la victoire symbolique.
Merci Vincent Hervouet. Il est 7h16 sur Europe 1. Dans un tout petit instant, l'édito sport, Virginie Fulpin et notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Vous êtes une star de... mais on dit aussi vedette. Mais d'où ça vient l'expression une vedette ?
La réponse dans un instant, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h19 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Emmanuel Macron a officialisé hier le lancement du passeport. J'arrive jamais à le dire. Passeport, il faut marquer l'arrêt.
C'est pas évident.
Bon, une aide de 50 euros par enfant pour les familles modestes, pour que les 6-18 ans puissent s'inscrire dans un club à la rentrée. Pour vous, ça va faire un bien fou au club amateur, mais la crise sanitaire va quand même laisser des traces.
Bah déjà, le président s'est adressé aux sportifs en ce jour de reprise, et c'est suffisamment rare pour être souligné. On a plutôt l'habitude de voir le sport traité comme la cinquième roue du carrosse que comme une priorité. Alors si au sommet de l'État on se rend enfin compte que le sport est le premier des gestes barrières, si on reconnaît son importance pour la santé mentale et physique et si on voit que les clubs et associations sont bien les piliers du tissu social du pays, c'est déjà ça. Hier, pour la reprise du sport, tous les enfants que j'ai croisés avaient des étoiles dans les yeux. Je retourne à la piscine. Voilà, c'est le bien-être d'une génération qui se joue et la survie d'un secteur. Le pass sport verra donc le jour à la rentrée et tant mieux. 50 euros d'aide par enfant pour les familles éligibles à l'allocation de rentrée scolaire et pour tous les enfants handicapés. Ça représente plus de 5 millions de bénéficiaires potentiels, la moitié des 6-18 ans. On peut toujours trouver que c'est pas assez, regretter que les étudiants, si fragilisés depuis un an, ne soient pas concernés. Mais reconnaissons quand même un effort important. Nos enfants doivent retrouver le chemin des clubs et des associations sportives et ce passeport va les y aider.
Emmanuel Macron veut faire de la France une nation sportive, dans la perspective bien sûr de Paris 2024.
Alors ça c'est un débat de toujours. La France est-elle une nation de sport ? Elle gagne des titres dans de nombreux sports. Elle a des clubs amateurs dynamiques sur tout le territoire. Mais c'est vrai que ces clubs ont perdu 30% de leurs licenciés à cause de la crise sanitaire. Est-ce qu'ils les récupéreront tous ? Est-ce que les bénévoles, essentiels à la vie de ces clubs, mais à quai pendant la crise, vont tous reprendre leurs activités ? Malgré les aides, tout ne redémarrera pas exactement comme avant. Depuis un an, on a pris de nouvelles habitudes sportives. Ceux qui ont continué à faire du sport l'ont fait seuls, en visio, entre amis aussi. Les plus jeunes vont aussi être encore plus tentés qu'avant par un sport à la carte, moins contraignant que dans les clubs. Donc ces clubs, ils vont devoir évoluer, se remettre en question, ce qu'ils ont commencé à faire bien sûr. Il va falloir continuer, devenir une nation sportive, ça passera par là. Et puis le président Emmanuel Macron a assisté à la finale de la Coupe de France de football hier soir. Une finale à 21h15, un mercredi. Si on veut que la France soit une nation sportive, il faudrait peut-être aussi que les enfants puissent regarder les grands événements, non ?
Oui, 21h15, un mercredi, ça fait tard. Et la fin du match, encore plus tard, du coup, ils n'ont pas pu voir les enfants Kylian Mbappé qui parlent pour la première fois de la sélection de Karim Benzema.
Ah, je suis très content. J'ai toujours dit que je voulais jouer avec des grands joueurs. Benzema, je pense qu'il n'y a pas beaucoup au-dessus dans le monde. Voilà, il va nous apporter ce qu'il sait faire. Voilà, il a joué à Madrid pendant une dizaine d'années. Donc la pression, il connaît, il a l'expérience et il a le talent surtout. Donc voilà, c'est facile de s'adapter avec les grands joueurs. Donc je suis sûr que son adaptation, elle sera très rapide.
Il n'allait pas dire des méchancetés, hein. On ne s'attendait pas non plus à des révélations folles. Mais c'est déjà la première réaction, on va les voir jouer ensemble maintenant. C'est surtout ça que les supporters attendent. Merci Virginie Fulpin, c'était l'édito sport, il est 7h22. Et on retrouve Stéphane Bern pour un mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quand on parle de stars, on pense à vous évidemment, Virginie et vous Mathieu, mais aussi on pense aux étoiles de cinéma. Star en anglais, c'est étoile, je ne vous apprends rien. Mais sachez que... En 1896, Méliès créa sa firme. Son nom, Starfilm. Mais au fait, elle est vedette alors.
Ah, vous allez nous faire l'origine du mot vedette. Ah, c'est vrai que quand on dit vedette, on pense aussi au bateau, Stéphane. J'imagine que ça n'a aucun rapport.
Alors, Je ne dirais pas que ça n'a aucun rapport, mais je ne dirais pas non plus qu'il y a un véritable lien. Vedette vient de l'italien vedetta. C'est une sorte de fusion entre veletta, qui signifie vigile, et vedere, qui veut dire voir. Car la vedette est à l'origine une sentinelle. On commence à utiliser le mot en France au XVIe siècle. Rien à voir avec les héros de la presse people. Les vedettes, ce sont les sentinelles situées tout en haut d'une tourelle pour veiller et alerter si des ennemis potentiels risquaient d'arriver et de passer à l'attaque. Pour évoquer ces soldats qui allaient à ce poste, on disait qu'ils étaient placés en vedette, en haut, donc à la vue de tous. Plus tard, quand à la fin du XVIIIe siècle, les acteurs de théâtre commencent à avoir une petite renommée, on mettait en vedette les noms principaux en les plaçant, comme disait le grand Charles, tout en haut de l'affiche. Quand vous parliez des bateaux tout à l'heure, Mathieu, eh bien, vous n'avez pas complètement dit une ânerie. Non, pas complètement. Les vedettes étaient aussi, et surtout, des navires de surveillance. On en revient donc toujours à cette histoire de guérite. Allez, terminons avec une citation de star, j'ai nommé Georges Clooney. Il a dit « J'ai su que j'étais devenu une star le jour où j'ai vu des gens bizarres récupérer mes vieilles chaussettes. » Je ne pense pas que vous n'en êtes pas encore là.
Non, pas encore, pas encore. Personne ne veut de mes chaussettes, Stéphane Bern. D'ici là, d'ici 16 heures, peut-être que ça changera. Oui. Historiquement vôtre avec Mathieu Noël.
Oui, on réunit Yuri Gagarin, le premier homme à avoir quitté la Terre pour rejoindre l'espace. Sally Ride, la première américaine et plus jeune femme à avoir enfilé la combi. Et le plus célèbre astronaute français actuel, Thomas Pesquet, qui nous écoutent depuis la Station Spatiale Internationale. Leur point commun, oh, facile aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ils sont allés voir.
À tout à l'heure, 16h.
7h25, dans un instant, la météo de Laurent Cabrol et un nouveau journal à 7h30 avec Lénaïque Monnier. À tout de suite. Il est 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Et pour vous dire que le temps sera agréable, profitez-en chers amis, profitez de cette journée, c'est vraiment exceptionnel par rapport à ce que nous avons vécu, car vraiment c'est une parenthèse. Quand je dis parenthèse, je ne me trompe pas, demain le temps sera vraiment très mauvais, notamment près de la Manche, avec des vents à 100 km/h, avec de la pluie, une zone de pluie qui traversera la France dans le courant de la journée. Oh, je me tais. Je reviens à la journée d'aujourd'hui, qui est la journée ensoleillée pour beaucoup d'entre nous, avec des passages voilés de nuages dans le ciel, qui sont des nuages totalement inoffensifs, donc il ne pleuvra pas. Nous aurons quelques gouttes, simplement dans le courant de l'après-midi, sur la Bretagne et le Cotentin. C'est l'amorce de la perturbation que nous verrons arriver demain. Donc, partout ailleurs, ça va. Dans le sud, ce sera encore meilleur que dans le nord. Les températures maximales, 25 degrés à Castelnaudary, dans le sud, 23 à Marseille, 22 à Toulouse, 21 à Nice. Et puis dans le nord, 18 à Paris, 17 à Lille, 16 à Brest. Bref, allez, tout va bien les amis, la journée sera belle.
Tout va bien, la journée sera belle, voilà le message. Merci Laurent Cabrol, très bon réveil à toutes et à tous et bonjour Lénaïque Monnier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Ouf, oui, un grand ouf. Hein.
Bah oui, c'est chouette.
Je vais m'en débarrasser le plus vite possible.
La vie sans masque, c'est maintenant, en Moselle en tout cas, reportage à Redin où l'on redécouvre le sourire de ses voisins. Être officier et se faire passer pour un migrant afin d'attiser la haine, c'était le plan d'un soldat néo-nazi. Son procès s'ouvre aujourd'hui. La correspondance d'Hélène Cole d'ici quelques instants. Et puis Europe 1 vous dit comment sauver les abeilles ce matin. Rendez-vous à la fin du journal.
Et juste après, La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chamerois sur l'actualité. Le tête-à-tête Europe Matin avec Barbara Pravi, la candidate française pour le concours de l'Eurovision, c'est samedi soir. L'édito politique, Nicolas Bétou.
Les policiers ont manifesté hier, mais leur colère a changé de cible. Ce n'est plus le ministre de l'Intérieur, mais celui de la Justice qu'ils visent.
Et puis enfin, avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit la maire du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La reprise d'une activité presque normale. Hier, on a vu un peu plus de monde dans les rues et surtout un peu plus tard. Des rires, des discussions animées avec des Français qui voulaient en profiter. Finalement, tout est presque redevenu comme avant, à part le masque dont le gouvernement espère nous débarrasser cet été dehors. Mais dans certaines villes, eh bien, c'est déjà le cas. Arthur Elmbaché s'est rendu à Redin, en Moselle.
Et ça risque de faire des envieux chez nos auditeurs à lunettes. Ici, depuis hier, il est possible d'aller de la gare à la boulangerie sans buer sur les lunettes.
Ouf, oui, un grand ouf. Hein.
Bah oui, c'est chouette, parce que c'est contraignant, pour bosser, on transpire avec.
Je vais m'en débarrasser le plus vite possible.
Avec ce masque-là, moi, je vois pas votre visage.
Vous voulez le voir? Oh, je suis une vieille peau.
Bah, c'est quand même sympa de voir votre sourire.
C'est vrai, il y a beaucoup de gens, on a du mal à les reconnaître.
Bon, une partie non négligeable des Rédingeois reste prudent dans la rue avec le masque.
Parce qu'on parle beaucoup du variant indien. Donc on ne sait pas si effectivement on va de nouveau être confiné, si ça va repartir ou pas.
Je suis enceinte, donc je préfère pas. Par principe de précaution, voilà.
Chez les voisins de Dabo, une autre commune pas très loin, il y a 50 habitants de trop, le maire Éric Weber.
On est à 2550 habitants à peu près. Ah, ça se joue effectivement à un cheveu. C'est vrai que si on avait pu tomber le masque, ça aurait été pas mal. Mais bon, on va patienter encore un petit peu. Et je préfère avoir une population dynamique et puis conserver le masque encore. Voilà, finalement, on va se consoler de cette manière-là.
Ici, en Moselle, le taux d'incidence a été divisé par 3 en un mois.
Alors on le disait, merci Arthur Mbaché, en reportage sans masque, hein.
ça va changer.
Alors on le disait, on a pu profiter des terrasses, mais bon, on va faire les rabat-joie un instant. Attention à l'abus d'alcool.
Oui Mathieu, vous connaissez cette vieille expression, un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts. Eh bien elle est fausse. En fait, Victor Dolande, dès le premier verre quotidien, eh bien il y a un risque.
Oui, au-delà d'un verre par jour pour les femmes et un verre et demi pour les hommes, les maladies et les accidents se multiplient et les dépenses de santé avec. Selon cette étude de l'OCDE, le PIB sera inférieur de 1,6% en moyenne chaque année à cause de cette consommation excessive d'alcool. Pour Laurent Carilla, addictologue à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, il faut davantage insister sur les messages de santé publique.
Être dans l'excès, ça aggrave le risque pour la santé. Il faut le rappeler, c'est pour ça qu'il y a des recommandations qui ont été éditées par Santé publique France. Par exemple, c'est pas plus de 10 verres par semaine avec au moins 2 jours sans consommer. Ce qui manque en France, c'est justement ces messages de prévention qui doivent être martelés comme des vaccins en fait. Un vaccin, il y a des rappels. Donc un message de prévention autour de la question de l'alcool, eh bien, il faut rappeler, marteler.
Ce spécialiste des addictions explique que le risque est encore plus fort depuis le début de la pandémie de Covid-19 avec des consommations d'alcool qui ont augmenté dans toutes les tranches d'âge. Il appelle aussi à la modération avec la réouverture des terrasses. Sa crainte, une recrudescence du phénomène de binge drinking.
Les précisions de Victor Dolande pour Europe 1.
Direction l'Allemagne à présent avec l'ouverture d'un procès assez incroyable, celui d'un officier accusé d'avoir préparé des attentats.
Et pour nous en parler, notre correspondante à Berlin. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour.
Alors, l'affaire remonte à 2017. Cet homme, un militaire de carrière, avait fomenté un plan tordu, se faire passer pour un réfugié syrien afin d'alimenter la haine des étrangers.
Oui, et pour que ce plan soit parfait, le lieutenant Franco Albrecht vivait une double vie entre la caserne de Ilkirch en Alsace, où il stationnait avec son bataillon de la brigade franco-allemande, et un centre de demandeurs d'asile en Bavière, où là, il était enregistré sous le nom de David Benjamin, un soi-disant juif syrien persécuté par Daesh. En parallèle, il avait rassemblé des armes, des munitions, des explosifs, et il avait une liste de cibles, des personnalités politiques de gauche et des figures du mouvement antiraciste allemand. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont aussi mis la main sur des enregistrements vocaux dans lesquels il tenait des propos complotistes, antisémites et racistes. En laissant partout les empreintes de doigts du prétendu syrien David Benjamin, il voulait réveiller les ressentiments des Allemands contre les réfugiés et, a-t-il écrit, secouer les patriotes. Détail piquant, il ne parle pas arabe et c'est en français qu'il passait ses entretiens en tant que faux réfugié, une langue qu'il maîtrise bien. Il a fait une partie de ses études à Saint-Cyr et d'ailleurs en 2014, ses formateurs français avaient repéré sa fascination pour le nazisme et ils avaient prévenu sa hiérarchie à la Bundeswehr qui lui avait mis un avertissement.
Merci Hélène Kohl en direct de Berlin ce matin pour Europe 1. En France, c'est le procès Big Malion qui s'ouvre cet après-midi. Parti parmi les 14 prévenus, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, est poursuivi pour financement illégal de la campagne électorale de 2012.
Tout autre chose, elles sont indispensables à notre biodiversité. Les abeilles sont plus que jamais menacées.
Mais si vous avez un jardin, vous pouvez encore les sauver. Alors pas en installant une ruche, mais plutôt un nichoir, Virginie Salmen.
Oui, ce sont de toutes petites maisons en bois de quelques centimètres avec à l'intérieur des tubes de bambou pour que les abeilles viennent pondre leurs œufs en sécurité, vendus avec des cocons d'abeilles en hibernation qui se reproduisent d'année en année. Séveline, qui vit dans une maison avec jardin dans l'Oise, en a installé deux sous sa pergola fabriquée par l'entreprise Bee Home avec un fond transparent pour pouvoir observer la vie des abeilles.
Moi, j'ai un fils de 22 mois qui adore aussi regarder les abeilles parce qu'on peut les approcher de près, on peut vraiment mettre la main sur le nichoir pour les abeilles en fait, et il se passe rien, elles sont pas du tout agressive. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, on les voit éclore. Et moi, j'ai des abeilles qui sont sorties du nichoir avec encore le cocon accroché sur elles, quoi. Elles avaient quelques secondes de vie.
Alors, les abeilles sauvages ne piquent pas. Elles améliorent les récoltes de fruits et de légumes. Leur offrir un abri permet vraiment d'aider les populations, explique Clara Ami, directrice du réseau Biodiversité pour les abeilles.
Ça aide à reconstruire les colonies. Par contre, il faut pas oublier que en fait, l'hôtel insecte, c'est le gîte. Il faut pas oublier la nourriture, du pollen et du nectar, hein, qui sont essentiels pour la survie. survie des colonies en laissant des endroits un peu en friche dans son jardin pour favoriser l'arrivée d'espèces florales sauvages.
Ou planter des fleurs que les abeilles apprécient en complément par exemple des coquelicots ou des bleuets.
Les précisions précieuses de Virginie Salmen pour Europe 1.
Et cette journée mondiale de l'abeille, on en reparle avec Fanny Agostini. Bien sûr, notre planète, c'est à 8h40. Merci Léna Higmonier, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Rachida Dati, invitée de la matinale, la maire du 7e arrondissement de Paris qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Dans un tout petit instant, Barbara Pravi, la candidate française à l'Eurovision. Mais d'abord, la touche âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Économie, sociologie, remets-moi un demi. Ce matin, grosse enquête sur la réouverture des terrasses.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1. C'est l'heure de la touche âme, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Une chronique sponsorisée, me dit-on ce matin.
Retrouvez la touche âme avec Doliprane, Efferalgan, Alka-Seltzer et citrate de bétaïne.
Oh, je sens que vous avez fêté la réouverture des terrasses, Bertrand.
Excusez-moi, il y a un opossum crevé dans le faux plafond quoi, ça. Ah non, c'est moi, ouais, satané masque. Bonjour Mathieu, oui effectivement, juste, je vous en supplie, parlez moins fort. Ce matin, j'ai le physique de Gollum et la voix de Macha Béranger. J'étais en terrasse hier, mais attention, c'était une célébration citoyenne et professionnelle. Si je l'ai fait, c'était pour saluer le retour de l'art de vivre à la française, comme le dit le président, mais aussi et surtout pour enquêter, évidemment, je dirais journalistique. Par amour de l'actualité, comme mes confrères de chaîne Info, je me devais de prendre le pouls en extérieur. J'étais embedded, comme on dit dans le jargon. Enquête qui a débuté à 7h40 pour se terminer à 20h59. Quelles sont les conclusions de cette immersion? Eh bien, les Français ont très vite repris leurs bonnes habitudes malgré 7 mois d'interruption. Bah, ça s'oublie pas. C'est assez rapidement, les Français, comme on dit, ont enlevé les petits trous pour faire un tout droit. L'atmosphère aurait pu être volcanique et monotone. Elle était hystérique et fanfaronne. Quel bonheur de retrouver ses amis pour partager nos journées de télétravail, hein, parce que c'est à peu près tout ce qu'on a à se raconter depuis un an, finalement. Mais les vieux réflexes se sont revenus très vite. Du voisin qui balance des seaux d'eau pour tenter de ramener le silence, à l'ami qui, après 3 pastagas, pense détenir la solution du conflit israélo-palestinien. La machine s'est remise en marche sans encombre, et au-delà des bistrotiers, ce sont plusieurs secteurs d'activité qui sont relancés hier. Les pickpockets, les vendeurs de roses, les taxeurs de cigarettes. C'était très émouvant à voir.
Je reviens te faire chier. Je savais que tu m'attendais.
Et plutôt dans la matinée, le président et les membres du gouvernement ont enchaîné les cafés en terrasse, des hectolitres de caféine engloutis sous l'œil des caméras. Il devait être sympa le conseil des ministres juste après. Ok, on fait très vite. C'est quoi l'ordre du jour? J'ai une de ces patates, moi.
Mais ce matin, j'aimerais avoir une pensée pour une ministre. Roselyne Bachelot, contrairement à ses collègues, hier, elle n'a pas bu son arabica face aux caméras. Non, depuis plusieurs mois, les événements ne la gâtent pas. Arrivée en août à la tête du ministère de la Culture, elle a très vite vu ses ambitions anéanties par la deuxième vague. Ciné, musée, concerts annulés, vie culturelle inexistante. Ses interventions médiatiques ressemblaient à des fourchettes, des SMS de fourchettes de livraison Ikea. Oui, nous rouvrirons entre demain et la fin juin de l'année prochaine. Tout dépendra du contexte. Entre-temps, elle a chopé le Covid et quand enfin, après des mois et des mois d'attente, la culture se déconfine enfin pendant que ses collègues se la jouent Georges Clooney avec leur expresso au bar, Roselyne Bachelot a été obligée d'aller au cinéma. Avec Jean Castex. Ah, c'est de l'acharnement à ce niveau-là. Ciné avec Jean Castex, c'est le truc. Pff, c'est comme aller en boîte avec Alain Grisé. C'est deux choses qu'on n'associe pas ensemble. Ils sont allés voir le film Slalom. Bel hommage à la stratégie sanitaire depuis un an. Voilà pour cette enquête sur la réouverture, Mathieu. Alors, vu ce qui se passe dans ma tête à l'heure où je vous parle, le jour où les boîtes rouvrent, je passe mon tour. Vous envoyez Laurent Cabron ou quelqu'un d'autre.
C'était La Touche Âme avec Doliprane, Efferalgan, Alka-Seltzer et citrate de bétaïne.
Vous voulez pas aller au cinéma avec Jean Castex et Bertrand Chameroy?
Signer avec Jean Castex, je signe.
Parce que je vois qu'il y a le Paris-Nice qui redémarre. Vous êtes niçois.
Tout à fait.
Oui, et qui sera du premier voyage pour le Paris-Nice de nuit.
Ah bah,
on met dans un train pour le
avec
week-end.
Avec grand plaisir.
Bertrand Chameroy, La Touche Âme, restez là, vous êtes à 10h avec Philippe Vandel dans Culture Média.
Ah oui, c'est vrai.
Merci, il va falloir tenir. Merci beaucoup Bertrand Chameroy.
Europe Matin, le 7-9.
Mon invité ce matin est la candidate de la France à l'Eurovision. 44 ans après Marie-Myriam, peut-on l'emporter samedi? La France est en tout cas la favorite des bookmakers. À 2 jours de la finale, certains vont la découvrir. On va apprendre à la connaître, on va l'écouter. Barbara Pravi sur Europe 1.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou.
Bonjour Barbara Pravi.
Mais salut.
Une candidate française qui affole les bookmakers, ça vous pose déjà un statut, des attentes à l'approche de la compétition. Comment est-ce que vous vous sentez ?
Je me sens bien, franchement je me sens bien, je vais faire mon maximum. Enfin je veux dire, il faut y aller avec de la joie et de la bonne humeur quoi.
Est-ce que vous arrivez à mesurer tout ce qui se passe quand on est qualifié pour l'Eurovision, cette notoriété soudaine ?
Pour l'instant, juste, je me dis que j'avance, je regarde mon agenda se remplir. Chaque fois que je vais faire des interviews, ça me rend hyper heureuse. Et je le prends plutôt comme ça, comme quelque chose de très... Je rencontre plein de gens, j'adore rencontrer des gens.
Votre nom de scène, Pravi, signifie ce qui est vrai, authentique, en serbe. Qu'est-ce que ça nous dit de vous ?
Je ne sais pas si ça te dit quelque chose parce que c'est un nom d'emprunt, donc c'est moi qui l'ai choisi. Donc j'ai choisi de me... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis quelqu'un de nature peinture, quoi.
On dit que si je veux réussir, faut être bonne à l'école. Qu'on ne forge pas son avenir dans la salle de colle. Que l'école, ça prend la vie, mais moi, si je n'en ai pas envie, si je veux faire ma place autrement, personne m'a demandé mon avis. Comment faire si je veux pas grandir, pas grandir? Comment faire pour ne pas grandir, pas grandir? Comment faire si je veux pas grandir, non pas grandir?
Pas grandir, un autre morceau touchant, je ne veux pas grandir. C'est difficile de grandir?
C'est-à-dire que je l'ai écrit à un moment où justement j'avais cette crainte-là. Et ce qui n'est plus du tout mon cas, je suis très fière et très heureuse de grandir parce que je crois que c'est vraiment une... J'ai la chance de pouvoir dessiner un peu les contours de comment est-ce que je grandis, de prendre des décisions, etc. qui font que, en fait, je suis fière de grandir.
Parce que ça n'a pas été facile avant d'être grande non plus. Je voyais le collège, le lycée, c'était pas vraiment votre truc.
Non.
Vous avez changé d'établissement chaque année au lycée, c'est vrai ou pas ?
Ouais, 6 fois, ouais.
Oui, pour finir à passer le bac avec le CNED.
Exactement.
Vous avez un problème avec l'autorité ?
Ah, c'est sûr. Ah oui, bien sûr. Non, pas toute forme d'autorité, parce que je suis pas contre l'autorité. Je pense que c'est bien qu'il y ait de l'autorité. Les personnes qui ont un peu de pouvoir, souvent prennent la confiance et n'ont plus aucune notion d'empathie et de compassion. J'ai un problème avec l'autorité mal placée.
Et en même temps, les lettres, vous les avez retrouvées au lycée ou après, les mots, la langue, vous écrivez beaucoup pour d'autres. Pour vous, aujourd'hui, vous dites les jolis textes en français se font de plus en plus rares.
On se prend moins le chou. Hein. Moi, quand j'ai commencé la musique, on me disait... C'est impossible de faire des textes bien en français, mais parce qu'on se cale sur la façon très américaine de faire sonner les choses, je crois. C'est une langue sublime, le français. Seulement, oui, ça prend un peu plus de temps de la faire sonner, parce que, je veux dire, il y a au moins 10 synonymes par mot, donc ça veut dire qu'il y a le choix. Et pour faire des choix, il faut avoir du temps. Il faut se prendre un peu, il faut se creuser un peu le crâne. Je pense à Juliette Armanet, Iseult, Pomme, Clara Luchen, ce sont des femmes qui font sonner la langue française de façon sublime. Donc,
Et vous les rejoignez ?
Je ne sais pas si je les rejoins, mais en tout cas, j'aspire à aller vers ça, c'est sûr.
Quel est le message de ce titre que vous portez, que vous revendiquez même à l'Eurovision ? Voilà.
Voilà, c'est un message d'affirmation et c'est un message... le message est clair, hein, ça dit voilà qui je suis, donc c'est me voilà, c'est tout ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est la musique, ce que j'ai, c'est les mots, ce que j'ai, c'est la volonté très très puissante d'écrire des histoires et qu'elles parviennent et qu'elles arrivent. Parce qu'un artiste, il a besoin des autres pour vivre tout seul. Un artiste, il n'est pas grand-chose. Et c'est de ça dont parle cette chanson.
Barbara Pravi, on raconte souvent vos origines, de l'Iran, de la Serbie, de la Pologne, de la France, bien sûr, du catholicisme, de l'orthodoxie, du judaïsme, de l'islam. Votre agent dit de vous, c'est une vieille âme. C'est quoi une vieille âme ?
Moi, je crois beaucoup à la réincarnation déjà, et j'ai la sensation qu'il y a vraiment... moi, je sens très fort la présence de l'âme à l'intérieur de moi, en tout cas, et j'ai l'impression que, en effet, la mienne est très... C'est comme si elle était remplie de sentiments anciens qui ne peuvent décemment pas appartenir à cette vie-là parce que j'ai que 28 ans. Et c'est comme si mes émotions étaient tellement, parfois tellement ancrées dans quelque chose de plus lointain, comme des souvenirs lointains, comme des traces de quelque chose que je ne peux pas avoir connu, quoi. C'est très étrange. Il y a des sensations, des sentiments qui me sont vieux, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire.
Ne partez pas! Je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours.
Barbara Pravi, cette soirée, cette finale de l'Eurovision, c'est notre ami Stéphane Bern qui la présentera. Et 20 minutes après son rendez-vous d'histoire, il est toujours avec nous. Rebonjour Stéphane.
Rebonjour.
Cette année, c'est la nôtre, Stéphane.
Ah oui, je crois.
On va
cette
gagner,
année,
Stéphane.
C'est la nôtre. Il faut qu'on gagne. Et cette chanson est bouleversante. Évidemment, elle vous met la chair de poule. Elle vous emporte. Elle emporte d'ailleurs tous les bookmakers sont là complètement fous. Elle fait sonner la langue française comme elle vous l'a dit d'une manière tout à fait admirable. Enfin, moi, je suis à chaque fois ému par cette chanson.
Barbara,
merci.
Vous avez Stéphane avec vous ce soir.
Je me fais mousser dès le matin, c'est trop bien.
Merci Stéphane, alors on va vous retrouver à la télé, mais avant ça à 16h sur Europe 1, bien sûr. Barbara Pravi, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Alors vous souhaite pas bonne chance, hein. Ça porte malheur, mais on est avec vous.
Bon, je prends tout ce que... Merde, voilà, je prends.
Allez,
je prends
un gros
tout.
Merde. Pour Barbara Pravi, cette année c'est la bonne, 1977-2021. Merci Barbara
merci
Pravi.
Merci beaucoup.
Mathieu Béliard.
7h50 sur Europe 1 dans un instant, l'édito politique avec Nicolas Bétou. Très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
La manifestation des policiers s'est déroulée dans le calme et Gérald Darmanin n'a pas été trop chahuté.
Pas trop, non. Il a été supplanté, en tout cas, au hit-parade de l'impopularité et des sifflets par Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui d'ailleurs ne s'était pas déplacé pour rencontrer les manifestants. Bon, il avait une bonne raison pour ça. Il défendait au même instant, dans l'enceinte de l'Assemblée, son texte de loi sur la confiance dans l'institution judiciaire et ça tombait plutôt bien pour lui, parce que sinon... Rien ne dit que ça se serait bien passé.
La cible de la colère des policiers s'est donc déplacée.
Exactement. Alors, on pouvait s'y attendre en fait, car en dehors des traditionnels mots d'ordre sur les moyens supplémentaires, les syndicats de policiers étaient là pour réclamer des peines minimales contre leurs agresseurs. Et à la tribune, plusieurs policiers victimes d'agressions ont témoigné sur l'impunité quasi totale dont ont bénéficié, disent-ils, les auteurs de violences. Applaudissements assurés.
Le Premier ministre vient pourtant de proposer de durcir les sanctions contre les coupables de crimes contre un policier ou un gendarme.
Oui, c'est vrai que l'arsenal pénal existe, mais justement la question pointée par les policiers est celle de l'application de la loi par les magistrats. Le problème de la police, c'est la justice. Cette phrase, ce slogan et ses différentes versions a été le mot d'ordre le plus scandé pendant la manifestation. C'est un fait. Dans un pays qui ressent comme jamais la montée de l'insécurité et de la violence, la dénonciation par la police du laxisme des juges est assurée de rencontrer un franc succès d'audience et le chef de l'État ferait bien de s'en inquiéter.
Eh bien, il y a justement ce projet de loi sur la confiance en discussion à l'Assemblée, vous le notiez il y a un instant.
Eh oui, mais ce sont des mots, une sorte d'incantation. En l'occurrence, le problème, c'est les magistrats. Le syndicat de la magistrature, par exemple, n'a pas hésité hier à jeter de l'huile sur le feu en dénonçant la participation de ministres et d'élus à une manif de policiers qui risque, c'est le syndicat qui parle, de faire de la police une puissance autonome. Difficile de faire plus antagoniste. Voyez-vous, à sa nomination, Éric Dupond-Moretti avait en filigrane sur sa feuille de route l'établissement d'un nouveau rapport de force avec les magistrats. Bon, ceux-ci ont immédiatement réagi en le traînant devant la Cour de justice de la République. Depuis, et malgré son acharnement à mettre son nom sur une loi, on le remarque surtout dans son combat contre Marine Le Pen, eh bien à ce rythme-là, il n'y aura bientôt plus que dans les films et les romans qu'on entendra cette fameuse phrase « J'ai confiance dans la justice de mon pays ».
Votre édito politique, c'est tous les matins sur Europe 1. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et tous les jours, nous retrouvons Nicolas Canteloup juste avant 8h qui conseille à sa façon l'invité de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Rachida Dati, maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris. Et tiens, c'est Anne Hidalgo qui revient pour lui dire un mot.
Oui, bonjour monsieur Béliard, monsieur Bétou, monsieur Cabrol. Et bonjour à Rachida Dati qui certainement nous écoute dans son taxi qui circule, j'en suis certaine, avec fluidité dans les rues dégagées de Paris. Au fait, monsieur Béliard, vous avez dû entendre parler de mon programme de construction de logements sociaux.
Ah oui, à ce sujet, vous avez pour projet de raser une maison classique de 200 mètres carrés du 16e arrondissement pour construire un immeuble de logements sociaux, c'est ça?
Voilà. Car les logements sociaux, monsieur Béliard, doivent aussi exister dans les beaux quartiers. Mais il faut, j'en conviens, une consultation. Du coup, je voulais consulter Rachida Dati, lui demander est-ce qu'elle préfère que je rase le magasin Dior de l'avenue Montaigne ou celui de la rue Saint-Honoré. Ou alors, je peux aussi faire péter le Vuitton des Champs-Élysées à la dynamite pour faire de magnifiques barres d'immeubles pour accueillir des foyers de travailleurs immigrés régularisés. Il faut que je réfléchisse. Réfléchissez encore un peu. Mais voyez-vous, chère Rachida Dati, j'ai beaucoup d'idées pour vous faire embellir la ville.
C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale tous les jours. Vous l'avez noté, Rachida Dati, maire LR du 7e arrondissement à 8h15. Et Nicolas Canteloup, on vous retrouve à 8h45 pour la revue de presque. Très bon réveil à tous. À 7h59, nous retrouvons Laurent Cabrol pour la météo.
Allez, on va faire ça dans le, disons, à coup de serpe. D'abord, aujourd'hui, pas de problème, va faire beau, c'est du beau temps, même si c'est pas du grand soleil, c'est du beau temps quand même. Il pleut pas, c'est déjà ça.
On prend.
Oui, on prend. Quelques pluies seulement sur la Bretagne, le Cotentin, mais c'est vraiment pour faire beau. Sinon, ce sera un temps agréable, avec des températures de 18 à 23 degrés, c'est pas mal. Demain, vendredi, tempête dans les régions qui sont proches des côtes de la Manche, là c'est moins sympa, avec dans les Hauts-de-France des vents à 100 km/h et le passage d'une perturbation sur l'ensemble de la France. Donc demain on oublie, c'est pas une journée sympa. Samedi, sur une petite moitié nord c'est pas terrible, sur la moitié sud c'est pas mal. Dimanche ce sera une journée presque belle. Et puis lundi, allez un passage pluvieux, on l'oublie celui-là. Bon, un jour oui, un jour non.
Bah c'est comme ça, c'est facile à retenir. Un jour oui, un jour non. Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. On écoute Le Monde changer.